Bonjour et bienvenue à Point de vue, ici Boris Chassagne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Au cours de cette émission estivale, on fait un peu de tourisme en nature dans les parcs historiques de la Nouvelle-Écosse. On écoute de la musique acadienne et on extrait du pétrole vert, enfin en partie. Le groupe 1755 entre au panthéon des auteurs-compositeurs canadiens avec sa chanson culte « Le monde a bien changé ».
1755 a amené l'Acadie dans la rue, a réveillé une conscience d'identité chez des Acadiens qui ne savaient même pas qu'ils avaient une histoire particulière. Ils ne savaient pas qui appartenait à un peuple distinct. Le 1755, je pense, a contribué largement à ce réveil-là chez la population, à réveiller une fierté, à réveiller une prise de conscience de l'identité acadienne.
Les sites continentaux de Parc Canada en Nouvelle-Écosse séduisent en alliant nature, histoire et culture. Et une compagnie albertaine affirme avoir mis au point et éprouvé une nouvelle méthode d'extraction du pétrole. On fait remonter l'or noir à la surface, non pas en injectant des produits chimiques, mais grâce aux ondes.
C'est un processus où l'on transforme de l'électricité en énergie électromagnétique qui est en fait ensuite transmise en énergie thermique dans le sous-sol. Cette énergie thermique chauffe donc les huiles lourdes pour pouvoir l'extraire.
Bienvenue à Point de vue.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chétiquin en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue.
J'en ai connu plusieurs, des fois changé souvent. C'était avant Paris, c'était avant ton temps. À ce temps, c'est plus pareil, je crois plus ça comme avant. Le monde a bien changé, je t'aime à tous les jours. J'apprends à vivre mieux, j'apprends à vivre heureux.
Eh bien, on met d'abord les voiles sur la Nouvelle-Écosse et on sera tout en musique en compagnie de notre journaliste Sébastien Beltran, posté à Halifax. Sébastien qui a eu la chance d'avoir à son micro l'un des musiciens du groupe 1755, un groupe originaire du Nouveau-Brunswick et dont l'une des chansons vient d'entrer, imaginez, au panthéon des auteurs-compositeurs canadiens. La chanson « Le monde a bien changé », écrite à l'époque par Gérald Leblanc et composée par Pierre Robichaud, le chanteur du groupe, a été inscrite au Panthéon en mai dernier à Fredericton à l'occasion des East Coast Music Awards. Pour ce chef-d'œuvre et pour l'élan insufflé à tout un peuple, 1755 s'est donc mérité cette reconnaissance nationale. L'histoire de ce groupe culte 1755 débute en fait à Moncton en 1977. Les cinq membres du groupe ignorent alors le destin qui les attend parce que 45 ans plus tard, la ferveur et l'enthousiasme de les voir sur scène n'a pas changé. Le public est toujours au rendez-vous. Le groupe était d'ailleurs très attendu sur la scène des East Coast Music Awards. Au début de l'aventure, il y a la rage de cinq adolescents, mus par une volonté d'affirmation identitaire. Ils composent des musiques, des classiques en temps réel. Ils ont le génie des différences et de l'écoute mutuelle. Les mélodies de 1755 ont stimulé la fierté et l'identité des francophones des Maritimes à travers les paroles du poète Gérald Leblanc, considéré d'ailleurs comme le sixième membre du groupe. Les Acadiens ont trouvé un message revendicateur et rassembleur. Pierre Robichaud, chanteur du groupe, revient sur les raisons de leur succès au micro de Sébastien Beltran.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Donc cette année, 1755 fête son 45e anniversaire et vu la ferveur autour de vous, on peut dire que vous êtes en train de marquer l'histoire de la musique en Acadie. Alors pourtant, en 1977, vous débutez dans les petites salles à Moncton et vous ignorez alors le destin qui vous attend. Alors parlez-nous de ces années. Est-ce que vous sentiez que vous alliez déclencher une telle émotion chez les Acadiens?
Pas jusqu'à ce point-là. Pas jusqu'à 45 ans plus tard, encore remplir les salles, encore se faire demander pour donner des spectacles. Sauf quand que ça a décollé notre affaire en 77, ça a décollé vite. On remplissait nos salles, on jouait dans des brasseries. Puis le monde, ben, il allait là pour dîner, pour avoir une place pour nous voir à 8 heures du soir. So, juste ça, dans ce temps-là, c'était très, très électrique pour le groupe. Ça nous a stimulé énormément de se garrocher là-dedans à 100 000 à l'heure. Puis, on n'aurait jamais cru que 45 ans plus tard, et même 30 ans plus tard, le monde nous téléphonait pour savoir si on voulait aller jouer. Donc là, on se fait encore téléphoner 45 ans plus tard pour aller donner des spectacles. Et on se fait reconnaître aussi par nos pères. So, c'est vraiment quelque chose rendu en 2022 qu'on parle encore du groupe 1755.
Exactement. Alors, j'allais y venir. 45 ans après vos débuts, vous êtes toujours aussi populaire et vous êtes devenu une référence et un exemple pour de nombreux artistes. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire et comment analysez-vous cela?
Nous autres, quand on a commencé, on était le seul groupe acadien qui se produisait dans les salles populaires, c'est-à-dire des brasseries et des arénas et les affaires de même. Les autres artistes acadiens qui sont venus avant nous se produisaient dans des sous-sols d'église ou dans des shows télédiffusés de Radio-Canada. Mais l'Acadie était quand même, comment je te dirais, l'Acadie n'était pas rendue au peuple. Le peuple acadien, comme tel, n'avait pas vraiment de connecté sur le fait qu'ils étaient acadiens. Moi, j'ai trouvé une expression que je trouve qui justifie un petit peu l'effet du groupe 1755. C'est le groupe 1755 a amené l'Acadie dans la rue. Avant, l'Acadie était dans les salles paroissiales et dans les émissions de Radio-Canada. À part de ça, on n'entendait pas parler de l'Acadie du tout, du tout, du tout. À Moncton, il fallait parler anglais dans la rue si on ne voulait pas se faire menacer de se faire battre. Sur 1755, c'est même, je décris ça, 1755 a amené l'Acadie dans la rue, a réveillé une conscience d'identité chez des Acadiens qui ne savaient même pas qu'ils avaient une histoire particulière. Ils ne savaient pas qui appartenait à un peuple distinct. Puis 1755, je pense, a contribué largement à ce réveil-là chez la population, à réveiller une fierté, à réveiller une prise de conscience de l'identité acadienne.
Votre chanson « Le monde a bien changé » rentrera au panthéon de la chanson canadienne aux côtés des chansons produites par Rufus Wainwright, Buffy Sainte-Marie et bien d'autres encore. Donc, plus qu'une récompense, il s'agit d'une reconnaissance. Alors, quel sentiment ça vous inspire?
Ben, c'est très, très valorisant d'avoir une de nos chansons intronisée dans le panthéon de la chanson canadienne. C'est gars, on se trouve, comme tu dis, en compagnie des grands que nous autres on a admirés pendant toute notre carrière, pendant toute notre vie, des Neil Young, des Gordon Lightfoot, des Joni Mitchell, etc. Tu sais. Ça, je veux dire, c'est très spécial, c'est émouvant. J'ai des frissons à juste en parler parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ça. Ça veut dire que c'est quoi que le Panthéon a décidé de nous introniser. C'est très, très, très spécial. Puis comment je te dirais, j'apprécie beaucoup énormément la reconnaissance qu'ils apportent, pas juste à Gérald Leblanc et à moi, mais à tout le groupe 1755 qui ont rendu cette chanson-là populaire.
J'en ai connu plusieurs, des fois changé souvent. C'était avant Paris, c'était avant ton temps. À ce temps, c'est plus pareil, je crois plus au comme avant. Le monde a bien changé.
Le monde a bien changé, c'est l'histoire d'un homme qui regarde ce qui l'entoure différemment depuis qu'il a rencontré l'amour. Il me semble qu'on peut faire un parallèle avec votre parcours, et vous me direz si je me trompe ou pas. Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir contribué à rendre leur fierté aux Acadiens, à avoir défendu une culture, un peuple, à lui avoir donné du plaisir aussi, qui fait qu'aujourd'hui, ils tiennent autant à vous?
Je pense que c'est difficile à moi de décrire ça. Le monde me répète souvent, souvent, que c'est grâce à nous qu'ils ont découvert leur identité. Puis, je veux dire qu'ils restent accrochés à nous autres, comme tu dis, après 45 ans. Ça fait 4 générations qui grandissent sur notre musique, qui apprécient la musique et qui se reconnaissent dans notre musique. Ça veut dire que c'est quand même assez spécial, il faut l'avouer. C'est assez, assez extraordinaire. Puis, je veux dire que c'est très valorisant.
Est-ce qu'on a toujours le track après 45 ans?
Oui, puis non. Rien qui ressemblait au track qu'on avait au début. On a appris à apprivoiser la scène au bout de 45 ans. Non, il y a toujours un petit track. Au début, le trac était épouvantable. De la misère, des fois, à passer à travers. Mais aujourd'hui, non, c'est un beau petit trac. Ça fait que ça te met sur tes gardes puis ça te prépare à affronter la soirée.
Comment voyez-vous cette jeune génération? Est-ce qu'ils peuvent s'exprimer comme vous le faisiez? Est-ce qu'ils ont les mêmes difficultés que vous aviez pu avoir?
Là, je ne sais pas. Aujourd'hui, en Acadie, il y a une industrie de la musique. Nous autres, quand on a commencé, il n'y en avait pas. On l'a plus ou moins créé. Plus ou moins. Aujourd'hui, il y a des gérants, il y a des salles de spectacle, il y a des agents, il y a des graphistes, il y a tout pour entourer les artistes aujourd'hui que nous autres, on n'avait rien de ça au début. Il fallait tout faire par nous autres-mêmes, défricher le territoire, défricher même à grandeur des provinces atlantiques, des endroits où aller jouer. Aujourd'hui, ils n'ont pas cette difficulté-là. Les artistes, ceux qui finissent par se ramasser avec un gérant ou une gérante qui a de l'allure, ben ils vont travailler, ils vont faire des spectacles, ils vont donner des spectacles, puis ils vont avoir quelqu'un qui va leur négocier un cachet convenable, etc. C'est tout ça, dans notre temps, ça n'existait pas.
C'est là où on mesure le chemin parcouru quand on vous écoute et qu'on voit comment vous avez transformé un petit peu la culture acadienne et la musique acadienne.
Ben, on a donné son envol, je pense. Comme je te dis, après nous autres, il y en est venu plusieurs. Puis dans les 20 dernières années, il y en a beaucoup d'artistes qui ont sorti de l'Acadie. À tous les jours, à tous les années, il y en a des nouveaux. Puis c'est bon. Il y a des très bons artistes qui sont en Acadie aujourd'hui.
Il y a quelques fans absolus et radicaux de 1755 à la station. Donc, je serai leur porte-voix pour ma dernière question. Alors, quels sont vos projets? Et y a-t-il un espoir de vous voir un jour avec de nouvelles créations?
Je ne sais pas. Pour des nouvelles créations, toi et moi, nos chansons ont traversé des décennies, ont traversé des époques, en traverser des générations. Puis quand le monde vient nous voir, ils veulent entendre ces chansons-là. So, si on se met à faire un paquet de nouvelles chansons, ben on ne jouera plus les vieilles. Nous autres, on s'est dit, autant que le monde va venir nous voir pour écouter nos chansons. Pour le moment, ça nous satisfait très bien. Merci.
Merci, Pierre, d'avoir partagé ces quelques minutes avec moi.
Il n'y a pas longtemps qu'on s'est rencontrés. T'en souviens-tu de la première soirée? On passait le temps à se regarder. Dans ce temps-là, on ne savait pas que sera, mais que ça soit entre toi puis moi. Les matins, le déjeuner, au lit, je l'emporterai. On restera couché toute la journée. C'est
allez, on bouge, on va vers l'ouest rejoindre notre journaliste Vincent Savard qui nous rapporte qu'une compagnie albertaine est en train de tester de nouvelles méthodes d'extraction de pétrole. La compagnie Accelware développe une nouvelle façon d'extraire le pétrole sans émettre de gaz à effet de serre, dit-elle. La stratégie consiste à utiliser des ondes pour extraire le pétrole. L'idée n'est, semble-t-il, pas nouvelle et daterait même, en fait, des années 40. Mais la technologie n'était, à cette époque, évidemment pas au point, on s'en doute. La compagnie Accelware affirme même avoir mis ses équipements à l'essai avec succès, même si elle avoue, du même coup, être toujours en phase de développement. Utiliser des ondes comporterait, à l'évidence, de nombreux avantages pour les grands exploitants qui peuvent, au dire de la compagnie, éviter d'utiliser des vapeurs d'eau et des produits chimiques pour faire remonter le pétrole à la surface. Le procédé serait beaucoup plus écologique, dit-on. Éric Trouillot est directeur du développement de la compagnie Accelware. Il est au micro de Vincent Savard.
C'est un processus où l'on transforme de l'électricité en énergie électromagnétique qui est en fait ensuite transmise en énergie thermique dans le sous-sol. Et cette énergie thermique chauffe donc les huiles lourdes pour pouvoir l'extraire.
Ce procédé est-il aussi efficace que l'extraction classique?
C'est une extraction en fait beaucoup plus efficace parce que au lieu de transformer l'eau qu'on peut avoir en surface en vapeur, ensuite envoyée en profondeur pour diminuer la viscosité du pétrole, En fait, le processus utilise des ondes micro-ondes, donc comme un four à micro-ondes. Ces micro-ondes sont donc envoyées en profondeur. Ils excitent les molécules d'eau et ces molécules d'eau sont ensuite transformées en vapeur et cette vapeur donc réchauffe le sous-sol pour extraire le pétrole. Mais alors comme on n'envoie pas d'eau, on utilise seulement l'eau qu'il y a déjà dans le sous-sol. Donc c'est beaucoup plus efficace point de vue transformation énergétique. Et puis en surface aussi, c'est beaucoup plus efficace à la production, à l'exploitation du pétrole parce que on se sert d'énergie électrique au lieu de transformer du gaz en vapeur. Voilà, c'est juste avec de l'électricité. Donc en fait, l'électricité, si l'électricité vient de ressources renouvelables comme le solaire, l'éolien, c'est très écologique. Ça peut être très écologique comme méthode d'extraction.
Est-ce que ces ondes-là peuvent être dangereuses à la santé des travailleurs?
Mais ce sont à peu près les mêmes ondes qu'on peut avoir dans un four à micro-ondes. Oui, si c'était en surface, il pourrait y avoir des problèmes potentiels. Mais comme c'est en très grande profondeur, à 500 mètres, 800 mètres de profondeur, et puis que l'on a plein de systèmes de sécurité en surface pour arrêter toute propagation d'ondes échappatoires au niveau du puits, c'est relativement sain comme processus.
Monsieur Éric Trouillot, ça fait combien de temps que vous avez trouvé cette méthode?
Cette méthode, c'est pas nous qui l'avons trouvée. Hein. Ça existe depuis les années 40, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les premiers essais. Mais c'était pas au niveau de l'extraction du pétrole à ce moment-là. Mais dans les années 50, je crois que c'était aux États-Unis, en Californie, ils ont essayé d'utiliser cette technologie, mais... c'était beaucoup trop complexe. D'autres compagnies pétrolières depuis ont essayé, mais bon, ils n'ont jamais réussi à transmettre cette énergie dans le sous-sol de manière efficace, surtout au niveau de la quantité d'énergie qu'on a à déployer ensuite dans le sous-sol. C'est vraiment une autre échelle.
Vous dites que l'idée est arrivée en 1940. Maintenant, aujourd'hui, on commence à trouver des façons à développer ça, puis on extrait du pétrole. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour que ça devienne permanent?
Là, on est en plein milieu d'essai. Donc, on a un site pilote où on envoie déjà donc, les ondes, ces ondes à fréquence micro-ondes dans le sous-sol pour essayer d'extraire le pétrole. Alors, on a commencé à très petite échelle dans les 5 à 10 dernières années en Alberta. Et puis là, nous sommes donc avec ce pilote à Marwane, donc juste au nord de Lloydminster, on fait donc ce pilote, on essaye donc la technologie dans ce pilote, c'est à 500 mètres de profondeur sur 800 mètres de long, et donc nous faisons les essais en ce moment même, et on a même commencé à produire du pétrole grâce à la technologie. Donc on commence déjà à avoir des résultats, mais bon, ça va durer plusieurs mois avant qu'on ait des résultats définitifs.
Est-ce que la compagnie Accelaware est la seule compagnie à travailler sur ce projet-là au Canada?
Au Canada, je pense oui. Il doit y avoir d'autres compagnies. Bon, il y en a une autre aux États-Unis, je pense, qui ont fait des essais, mais ils n'ont pas, d'après nos renseignements, n'ont toujours pas réussi à transformer autant d'énergie en sous-sol, en micro-ondes, en électromagnétique. C'est très, très complexe comme technologie. Et jusqu'à présent, nous sommes les seuls vraiment à avoir réussi à transformer autant d'énergie en sous-sol.
Vous avez été aidé par le gouvernement du Canada en subvention. C'est quoi qui a été la cause qui a convaincu le fédéral d'investir dans ce projet-là?
Tout le monde dans le monde entier se penche sur les nouvelles technologies pour réduire l'effet climatique que l'on vit tous aujourd'hui. Donc, le fait que notre technologie aide vraiment à réduire la consommation d'énergie et à éventuellement pouvoir produire du pétrole, extraire du pétrole avec presque 0% de GHG, c'est quand même immense comme évolution technologique. Et surtout, on se sert pas d'eau du tout extérieure, alors que dans les villes lourdes, c'est un des gros problèmes, c'est l'utilisation d'eau qui n'est pas du tout écologique. Et comme tout le monde est penché sur ce genre de problème, ben le gouvernement était prêt à nous aider.
On commence de plus en plus à parler de votre projet. Est-ce que les autres entreprises pétrolières commencent à aborder votre compagnie pour utiliser cette fonction d'extraire le pétrole avec des ondes?
Oui, oui, on a beaucoup d'intérêt de compagnies diverses en Alberta et de par le monde, en Californie, au Moyen-Orient. Tout le monde est intéressé, tout le monde regarde ça de près. Pour notre projet qui est à Marlwain, donc en Alberta, là, le projet pilote qui est en cours, nous avons déjà 3 compagnies pétrolières qui sont impliquées dedans aussi, qui ont aligné des fonds de leur côté pour aider à subventionner le pilote qui est en cours en ce moment.
Merci beaucoup, Monsieur Éric Trouillot, directeur du développement de la compagnie Accelaware.
Mais je vous en prie.
Suivez-nous sur Twitter à CanadaLJI, @CanadaLJI.
L'été est à nos portes et plusieurs ont déjà mis la main sur leur site de camping ou de caravaning à travers le pays. Et ce, en dépit des coûts prohibitifs de l'essence à la pompe, ils sont plusieurs à avoir réservé depuis des lustres leur place en nature, et notamment dans les différents sites de Parcs Canada en Nouvelle-Écosse continentale, lesquels ont officiellement lancé leur saison touristique estivale. Certains misent sur une formule histoire et culture en pleine nature, et parmi eux, ceux de la citadelle d'Ali de l'île Georges, du parc national et du lieu historique national Kejimkujik, de Port-Royal et du fort Anne. Notre journaliste à Chétican, Daniel Aucoin, se paie du bon temps à rêvasser d'espaces verts et d'horizons. Il nous donne un avant-goût des trésors naturels et historiques que renferme la Nouvelle-Écosse, en compagnie de Marie-Lise Thériault-Como, responsable de l'expérience visiteur au parc national du lieu historique national Kejimkujik. Daniel Aucoin.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, les lieux de Parc Canada de la Nouvelle-Écosse continentale qui lancent officiellement leur saison touristique estivale 2022, comment important que sont les sites de Parc Canada comme produits touristiques pour la Nouvelle-Écosse continentale?
Je dirais qu'ils sont super importants. Ça vaut la peine de venir les visiter maintenant qu'on peut visiter et voyager dans notre province un peu plus librement. Je pense que c'est une meilleure façon de découvrir notre nature et de se rapprocher de notre histoire.
On sait que les 2 dernières années, ça a été assez difficile pour l'industrie touristique en Nouvelle-Écosse. Est-ce qu'on est confiant à Parc Canada que les visiteurs seront de retour cette saison?
Selon moi, on va voir beaucoup de monde dans nos parcs cet été. Les gens ont besoin de bouger, ils ont besoin de sortir de la maison. Et je pense que de se promener dans des parcs nationaux, c'est la meilleure chose pour la santé. Et surtout de prendre le temps de justement s'éduquer de qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire en Nouvelle-Écosse. Et c'est certain que Parc Canada va mettre en place toutes les mesures pour assurer que les visites soient faites de façon sécuritaire et qu'il n'y a pas de propagation de la COVID-19.
Parle-nous un peu de la carte d'entrée découverte de Parc Canada.
Oui, la carte découverte Parc Canada, c'est une super carte qui te permet de visiter tous les parcs qui sont au Canada. Et c'est une carte qui est bonne pour un an, justement, qui permet de visiter les sites historiques comme les parcs nationaux, comme les réserves. Et ça nous permet de rentrer plus facilement, pas besoin de faire une ligne d'attente quand c'est un vendredi après-midi qu'il y a une longue ligne. Ça nous permet de passer plus rapidement et justement avoir accès à tellement de l'histoire du Canada.
C'est quoi certains exemples de différentes expériences enrichissantes que l'agence Parc Canada propose aux visiteurs en Nouvelle-Écosse continentale?
Oh, cet été, on offre beaucoup de choses. C'est certain, si vous passez par Halifax, il y a une nouvelle exposition qui parle justement de l'histoire de comment Halifax a été fondée et comment elle est rendue maintenant une belle mosaïque multiculturelle. On passe par l'histoire des Mohs, les pionniers britanniques, les Acadiens et plusieurs différentes cultures. Je pense que c'est une bonne façon de justement se renseigner plus sur notre histoire à Halifax. Ensuite, on peut faire un arrêt à l'île Georges, qui est ouverte toutes les fins de semaine, en débutant par le 11 juin jusqu'au 9 octobre. Ça nous donne une nouvelle vue panoramique de Halifax. Et justement, d'en savoir plus sur qu'est-ce qui s'est passé sur cette île-là et l'impact qu'il y a eu sur les Acadiens. Si vous passez un peu plus loin, à 2 heures, il y a le parc Kedjimkujik, où vaut la peine de venir voir notre nouveau sentier, qui s'appelle Ugmeg, qui veut dire sinueux en Mi'kmaq. Et ça longe la rivière Mersey et ça nous amène à un super pont qui passe par-dessus des chutes. Fait que ça vaut vraiment le paysage. Et si on veut continuer après pour se rendre à Port-Royal et à Fortane, il y a des nouvelles activités guidées qui nous amènent plus sur l'histoire des Acadiens. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos parcs ici continentaux.
Comment les gens peuvent se préparer à l'avance avant de partir pour visiter les lieux de Parc Canada?
Oui, donc cette année, c'est vraiment important que les gens planifient à l'avance pour leur visite. Dans la majorité des temps, il faut faire des réservations à l'avance. Mais si les gens vont sur notre site web, toute l'information est là. On peut se renseigner sur justement comment faire des réservations, quels programmes sont disponibles. Vraiment, je pense que ça vaut la peine juste de faire un tour sur nos sites web et nos médias sociaux.
Est-ce qu'on retrouve des bornes de recharge pour véhicules électriques à la disposition des visiteurs?
Surtout à la citadelle d'Halifax, au Parc national Kedjimkujik et au lieu historique de Fortane.
Est-ce que la saison débute à différentes dates pour les différents lieux de Parc Canada de la Nouvelle-Écosse continentale?
Oui, donc on a différentes dates de début. Pour la citadelle, ça a débuté le 7 mai dernier. Pour l'île Georges, ça a débuté le 11 juin, mais pour la majorité, le reste, comme Kedji, Port-Royal, Fort-Anne et Grand Prix, on commence le 20 mai.
Alors, on va vous souhaiter une excellente saison touristique estivale 2022. Marie-Lise Thériault-Comeau, ambassadrice l'expérience des visiteurs, Parc national et lieu historique national Kedjimkujik. Merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous et bonne chance.
Bien, merci beaucoup. Alors, on se voit cet été.
Salut.
Salut.
Eh bien voilà, c'est tout pour nous à Point de vue. On vous invite à consulter notre site web où vous pouvez lire et écouter, vous le savez, tous les reportages produits par des dizaines de journalistes postés à travers le Canada et qui travaillent en deux langues et deux langues et demie peut-être, français, anglais et un peu d'espagnol. Rendez-vous sur canada-info.ca, canada-info.ca. On vous présente à cette émission, vous ne savez qu'une infime partie de ce qui est produit chaque semaine. Ne ratez pas ce rendez-vous de l'information locale. L'information locale, c'est notre rayon. Retrouvez-nous sur Twitter @CanadaLJI, CanadaLJI. Écoutez toutes nos émissions sur vos plateformes préférées. On remercie nos journalistes Vincent Savard, Sébastien Beltran, Daniel Aucoin et notre coordonnateur national Stéphane Bénard. Chapeau aux artistes qui, à chaque émission, nous offrent leur musique. On vous rappelle que Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici, Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Revenez-nous la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la Baleine en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.